Chapitre 1. De nos jours, plus personne ne porte de robe blanche à son mariage. Trop difficile de trouver du tissu de cette couleur. Trop coûteux et compliqué de s'en procurer assez pour fabriquer des robes par dizaines. Y compris pour la cérémonie d'aujourd'hui, à laquelle participe pourtant le fils de notre leader, puisqu'il est l'un des futurs mariés. Mais même lui ne sort pas assez du lot pour se permettre d'épouser une fille vêtue de blanc. Tiens-toi tranquille, râle Master derrière moi. De ses mains glacées, elle tente de boucler le lassage récalcitrant au dos de ma robe bleu pâle. Confectionnée pour le mariage auquel elle n'a jamais eu droit, le vêtement est un peu serré pour moi.
« Voilà !»
conclut-elle lorsqu'elle parvient enfin à le fermer jusqu'en haut.
« Retourne-toi !»
Je m'exécute à contre-cœur en tapotant du bout des doigts le tissu soyeux. Je n'ai pas l'habitude de porter des robes. J'ai l'impression d'être presque nue en dessous et, déjà, je n'ai plus qu'une envie, remettre un pantalon et me débarrasser du corsage trop étroit qui m'empêche de respirer normalement. Comme si elle lisait dans mes pensées, ma sœur baisse les yeux sur le corset.
« Tu as des formes plus généreuses que les miennes », constate-t-elle avec une moue amusée. « Mais ça m'étonnerait qu'ils s'en plaignent. »
« C'est bon, Kali. Tes remarques, tu peux te les garder. » Ma réponse manque cruellement de conviction. Je n'aurais jamais cru être aussi nerveuse. Ce n'est pas comme si cette journée était inattendue, en plus. J'ai su toute ma vie qu'elle s'annonçait à l'horizon. J'ai même passé chaque minute des deux dernières années à m'y préparer. Et à présent que le grand jour est arrivé, je ne parviens ni à maîtriser le tremblement de mes mains, ni à dompter mon estomac révulsé. Serais-je capable d'accomplir mon devoir? Je n'ai pas le choix, je le sais. Kali rabat une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille. « Tout va bien se passer », me promet-elle d'un ton ferme. « D'accord? Tu sais quoi faire. » Je relève la tête et je réponds simplement. « Je sais, oui. » Ces paroles me font me sentir plus forte. Elle a raison. Je n'ai pas besoin d'être traitée comme une enfant. Elle me regarde un long moment, les lèvres pincées. Est-elle mécontente que je prenne la place qui lui revenait de droit? Ou se sent-elle au contraire libérée de son fardeau? Soulagée de ne plus être celle sur qui repose tant d'espoir?
« Les filles !» appelle mon père depuis le rez-de-chaussée. « C'est l'heure !»«
Vas-y, » dis-je à ma sœur. « Je te suis. » J'ai besoin d'un dernier instant de calme, d'une dernière occasion de contempler la chambre qui ne sera plus jamais la mienne. Kali sort, mais laisse la porte entrouverte. J'entends mon père qui s'impatiente en bas. Elle qui le rassure à voix basse. Sur mon lit se trouve une valise usée aux roulettes cassées depuis longtemps. Je vais devoir la porter. Je la soulève et je fais lentement un tour sur moi-même. Je sais que je ne dormirai plus jamais dans ce lit étroit. Ne me brosserai plus jamais les cheveux devant la coiffeuse. Ne m'endormirai plus jamais au son de la pluie contre cette vitre. Je respire un grand coup et je ferme les yeux pour retenir les larmes que je sens monter. Quand je les rouvre, ils sont secs. Je sors de la pièce sans un regard en arrière. Les mariages sont célébrés le deuxième samedi de mai. Certaines années, lorsqu'il pleut, une légère odeur de brûlé nous parvient, même après tout ce temps. Mais aujourd'hui, le ciel d'un bleu éclatant est dégagé depuis l'aube, et seuls quelques nuages vaporeux flottent dans la brise légère. Une belle journée pour se marier. Pourtant, tout au long de notre trajet à pied vers la mairie, je ne parviens à me concentrer que sur les battements irréguliers de mon cœur et la sueur qui ruisselle entre mes omoplates. Mon père et Kali m'encadrent, un peu comme si j'étais un cheval prêt à s'emballer. Je ne compte pas m'enfuir, mais à quoi bon le leur dire ? Mon père m'effleure la main, puis la prend dans la sienne. Il ne me l'a pas tenue depuis que je suis toute petite, et son geste me cause un tel choc que je trébuche toute seule. C'est même lui qui me rattrape avant que je ne tombe. Mais malgré la surprise, je suis profondément émue. Un tel comportement n'est pas habituel chez lui. Offrir du réconfort, ce n'est pas son genre. Lorsqu'on a un destin tout tracé comme le mien, on n'a pas besoin d'être dorloté. Son rôle, c'est de me rendre forte. J'aime à croire qu'il y a réussi, mais je prends peut-être mes désirs pour des réalités. « Nous sommes fiers de toi », dit-il. Il étreint ma main, une fois, presque à me faire mal, puis la relâche. « Tu vas y arriver. » Les yeux braqués droit devant moi, je réponds « Je sais. »
La façade en pierre calcaire de l'hôtel de ville est à présent toute proche. D'autres jeunes filles, accompagnées de leurs parents, gravissent les marches du perron. Elles doivent être nerveuses, impatientes de savoir si, à la fin de la journée, elles seront mariées ou devront rentrer chez elles retrouver leur lit d'adolescente. Mon anxiété n'a rien à voir avec la leur. Je sais où je vais coucher ce soir, et ce ne sera pas dans les draps que j'ai quittés ce matin. La peur me serre la gorge. Lorsque nous parvenons sur le trottoir devant la mairie, certains commencent à se retourner, à faire signe à mon père, à venir lui serrer la main ou lui taper sur l'épaule. De temps à autre, quelqu'un m'adresse un sourire rassurant, me complimente sur ma tenue.
« Souris !» me souffle Kali à l'oreille. « Tu as une grimace collée sur le visage !»
Je souffle, irritée.
« Si c'est si facile, tu n'as qu'à essayer !»
Pourtant, malgré mes protestations, j'obéis.
« J'aurais bien voulu, souviens-toi » rétorque-t-elle. « Mais je n'ai pas eu cette chance. Maintenant, tu dois le faire à ma place. »
Voilà, j'ai ma réponse. Elle est jalouse de moi, dépitée d'avoir été spoliée de son droit d'aînesse. Je m'attends à croiser un regard glacial, mais quand je tourne la tête vers elle, ses prunelles sont empreintes d'une douceur que je leur ai rarement vue. Kali, c'est la version féminine de notre père, avec ses yeux chocolat et ses cheveux bruns. J'ai toujours voulu leur ressembler plutôt que d'être celle qui détonne. Mes iris bleu-gris et mes cheveux ni vraiment blonds, ni vraiment bruns, je les ai hérités de notre mère, morte depuis longtemps. Même si nous nous ressemblons très peu, lorsque je regarde ma sœur, j'ai l'impression de me voir moi, mais en plus féroce et plus disciplinée. Elle incarne la personne que je suis censée devenir. Nous suivons la longue file de jeunes filles à marier à l'intérieur de la mairie. Je suis entourée d'adolescentes en robes de couleur claire. Certaines tiennent un bouquet, d'autres, comme moi, arrivent les mains vides. On nous mène jusqu'à la rotonde principale. À l'une des extrémités de la salle a été dressée une scène. Un rideau sombre est tiré, derrière lequel, en cet instant même, les garçons s'alignent en attendant qu'on leur révèle qui sera leur épouse. Les candidates au mariage prennent place sur les premières rangées de chaises. Leurs familles et celles des futurs époux s'asseyent derrière elles. Le président Latimer et sa femme, eux, sont installés sur l'estrade, comme chaque année. Même avec leur fils derrière le rideau en ce jour très particulier, leur rôle demeure immuable. Mon père fait un pas vers moi, me presse une dernière fois la main, puis la laisse retomber avant de s'éloigner. Kali dépose un rapide baiser sur ma joue, sans conviction. « Bonne chance », me dit-elle. Si ma mère était toujours en vie, peut-être m'étreindrait-elle, me quitterait-elle sur un dernier conseil utile plutôt que sur une telle platitude. Une fois installée sur un siège vide au premier rang, je m'applique à éviter le regard du président et des filles autour de moi. Je me concentre sur une petite déchirure dans le rideau sombre, jusqu'à ce que la future mariée assise à côté de moi me glisse quelque chose dans la main.
« Tiens, prends-en un et fais passer !»
Je m'exécute avant de tendre la liasse de programme à ma voisine de gauche. C'est le même tous les ans. Seule la couleur du papier et les noms à l'intérieur changent. À quoi bon d'ailleurs ? Tout le monde le connaît sans doute par cœur depuis le temps. Cette année, il est imprimé sur du papier rose clair, et les mots « cérémonie de mariage » sont inscrits sur la couverture en lettres cursives. L'encre a légèrement bavé. Les deux premières pages relatent l'histoire de notre nation. À titre personnel, je trouve ridicule de parler d'une ville de moins de 10 000 habitants comme d'une nation. Mais personne n'est venu me demander mon avis. Il est question de la guerre qui a provoqué la fin du monde, des inondations et des sécheresses qui ont suivi, des maladies qui ont bien failli avoir raison de nous. Mais bien sûr, notre peuple de rescapés en haillons, là des affrontements, a ressurgi de ses cendres. Les uns comme les autres, nous avons sillonné un vaste territoire stérile pour finir par nous retrouver et nous installer dans le coin le plus propice, afin de tout recommencer à zéro. Bla, bla, bla. Notre résurrection, pourtant, n'a pas été exempte de conflits et de morts supplémentaires, car deux camps se sont affrontés pour déterminer comment grandirait notre minuscule nation. Le parti qui l'a emporté était mené par le père du président Latimer. Magnanime, il a accueilli le vaincu, mon grand-père, Samuel Westfall, et ses partisans dans son giron, leur a promis le pardon et accordé l'absolution de leurs péchés. Au fil de ma lecture, le dégoût monte.